sujet.
Oh, tu m'énerves. T'as tout le temps regardé la télé, tes matchs de foot, là. Oh, j'en peux plus, là. Je suis littéralement ventousé devant ton écran à regarder toute cette espèce de barbare qui court après la balle.
Des barbares ?
Oui, ce sont des barbares.
Des beaux athlètes comme ça ?
Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein ? Évidemment. Hein, c'est la fête des corps.
Attention, je vous interromps, c'est parti, c'est un départ qui... Oh là là.
Aïe, que se passe-t-il? Serait-ce à nouveau Satan d'imite?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.
Voilà.
Quel pied. Oh putain. Oh là là.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Ta mère en short, l'émission qui vous parle de sport sur l'antenne de Principe Actif. Aujourd'hui, nous avons quelques défections puisque la guinche, comme elle aime à l'appeler l'amideuse de Rinfo La Dépêche, ne sera pas avec nous aujourd'hui. Et l'amideuse lui-même risque d'être largement en retard. Ne condamnons pas ce petit retard, ça arrive à n'importe qui, mais il devrait être là en deuxième partie d'émission. Au menu, au sommaire, au programme du jour, on reviendra évidemment sur l'actualité sportive des clubs locaux qui jouent en ce moment. Et puis, nos invités du jour, à savoir Gilles Bienfait et Jean-Nicky, tous les deux du club de l'EFC 27. Donc, on parlera très largement aujourd'hui de football. Je précise les rôles et responsabilités de chacun. Donc, Gilles Bienfait, vous êtes responsable des jeunes de 7 à 17 ans, si je ne dis pas de bêtises, de la formation. Bonjour à vous.
Bonjour. Et puis également des féminines de la section féminine du club.
On parlera aussi, évidemment, de sport féminin dans cette émission. Et Jean-Nicky, vice-président chargé des relations extérieures du club, donc le FC 27. Bonjour à vous.
Bonjour, c'est ça, oui.
Je me suis pas trompé.
Tout à fait, c'est ça.
Tout va bien alors. Dans cette émission, on a pour coutume de la commencer avec un traditionnel tour de table sur ce qui a retenu notre attention en matière de sport, soit local, soit national, soit international. Enfin voilà. Donc je vais vous demander, priorité aux invités évidemment, Gilles et Jean, tous les deux, si voilà, il y avait des choses en particulier dans l'actualité sportive qui avaient retenu votre attention la semaine passée ou ce week-end.
Je commence. Je vais pas parler de foot par rapport à l'activité. Je pense qu'on va en parler largement après. Mais pour moi, c'était le lancement aussi, un sport que j'apprécie aussi beaucoup, sur la Coupe du Monde de hand qui a débuté là avec l'équipe de France. Donc voilà, à suivre un petit peu sur les résultats de cette équipe nationale.
Un des sports où la France en général brille. Hein, le hand, on a été plusieurs fois champion du monde. Voilà, il y a quand même un sacré niveau. Jean, vous auriez quelque chose à soulever dans l'actualité récente ?
Non, comme Gilles, effectivement, je vais suivre attentivement le handball, hein, parce que, c'est, comme vous l'avez dit, la France y brille, a une très belle équipe. Bon, dans le domaine du football aussi, le championnat professionnel qui continue sa route, parce qu'au niveau local, par contre, là, pour la première année, la Ligue de Normandie a prévu une trêve entre mi-décembre et mi-février. Donc là, on est plutôt au plan local en préparation en match amicaux.
Oui, pour le FC 27, la compétition, ça reprend le 8 février, c'est ça de mémoire ?
C'est ça.
Donc on aura l'occasion de resuivre vos résultats, mais pour le moment, voilà, ça joue pas trop, quoi. Moi, j'avais deux trois choses à voir avec vous, puisque j'ai des représentants du football hébroïcien. Il y a notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé ce week-end. Quel est un peu votre regard sur le football africain ? Est-ce qu'il se porte mieux qu'à une certaine époque ? Est-ce qu'il progresse ? Comment vous voyez les choses pour le football africain ?
Moi, personnellement, je pense qu'il évolue plutôt dans le bon sens, parce que justement, je pense que ils utilisent et ils se servent de ce qui peut se faire aussi en Europe et ailleurs. Donc on les voit de plus en plus évoluer, suivent aussi la formation extérieure, et on commence aussi à avoir pas mal d'entraîneurs étrangers, français, européens à aller s'expatrier un petit peu par là, et donc ça s'en ressent aussi au niveau des résultats.
Il y a Renard notamment, Leroy, je crois que c'est la huitième équipe différente qui coach pour une Coupe d'Afrique des Nations. C'est un sacré record.
Et Bruissien.
Ah oui, d'accord, je ne savais pas.
Oui, de l'EAC, il y a un certain temps déjà. Mais...
Et voilà, pour faire un lien un petit peu peut-être tiré par les cheveux, mais je crois pas tant que ça, entre ce début de Coupe d'Afrique des Nations et les dramatiques événements qu'a connu la France il y a un peu plus d'une semaine, était à lire dans un article de l'équipe une interview de Sofiane Feghouli. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un joueur de l'équipe nationale d'Algérie qui joue aussi dans le club de Valence, donc en Espagne, ancien grenoblois qui avait fait la montée il y a quelques années en D1 avec Grenoble, formé en France évidemment, qui avait cette phrase notamment un peu forte dans l'interview accordée à l'équipe: en France je ne ressens aucune reconnaissance. Voilà, à l'heure où on parle un petit peu de, même plus qu'un peu d'une forme de fracture dans la société française entre différentes parties de sa population, accentuée ou mis en lumière par les attentats de Charlie Hebdo. Voilà, est-ce que ce regard d'un footballeur comme Sofiane Feghouli éclaire un petit peu les choses? Et vous, quel regard vous avez un petit peu sur cette fracture et le rôle que pourrait jouer le football pour tenter de résorber un petit peu ces fractures, ces divisions dans notre société? Vaste question, je sais bien, un peu, je vous prends un peu à froid en début d'émission comme ça, mais ça me semblait important d'en parler.
Tout à fait, vaste question, oui, c'est sûr. Le football n'échappe pas, le football est dans la société, il est dans la vie de tous les jours, il n'échappe pas, et il ne va pas régler les problèmes non plus à lui tout seul. Mais donc aujourd'hui, c'est vrai, une partie de la population ne se sent plus aspirée par l'ascenseur social, comme on disait, qui est plutôt un escalier qu'un ascenseur d'ailleurs, parce qu'il faut gravir les marches une par une. C'est plus important. Donc, naturellement, mais justement, le football, par son travail éducatif, et c'est ce qui nous intéresse essentiellement dans le club de l'EFC, comme dans les deux clubs qui l'ont formé avant, qui sont l'Evreux Athletic Club et l'ALM, où il y avait ce souci d'éducation en priorité, parce que le football, Albert Camus disait, tout ce que je connais de la vie, je le dois au football, de la vie et des hommes, parce que non seulement c'est l'apprentissage de règles, de vivre ensemble, de travail, mais en même temps, là, l'ascenseur, il existe, parce que c'est une des rares activités, le sport, où les meilleurs jouent. Ce n'est pas une question de réseau, de parents qui peuvent vous aider à intervenir ici et là, le meilleur il joue. S'il n'est pas bon, il n'atteint pas les niveaux. Donc là, on a vraiment des gens qui émergent par leur travail et par leur qualité. C'est vrai que c'est très important, c'est pas le cas toujours, malheureusement, dans la société. C'est peut-être ça qu'ils dénoncent d'ailleurs, justement. Ben, le sport permet ça. Tout le sport, pas que le football, naturellement. On parle là du football parce que bon, c'est un sport universel. Hein,
On a coutume de dire que c'est le sport le plus populaire en France.
En France et dans le monde, puisque la FIFA compte plus d'adhérents que l'ONU, vous vous rendez compte, plus de 200 pays, de tous les pays, quel que soit leur régime, qu'ils soient démocratiques ou un peu moins, tous ont une représentation nationale. Ça veut dire que tout le monde joue au football. Les hommes d'abord, mais aujourd'hui de plus en plus également les femmes. Et c'est un des axes de développement que l'on a aussi. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas régler tous les problèmes, mais par le travail quotidien qui est fait avec des éducateurs qui sont bien préparés et formés à ça, on peut permettre de vivre ensemble et de faire voir que le travail et la qualité récompensent les meilleurs, et que si on n'est pas bon ou si on ne travaille pas, ben on ne réussit pas.
Gilles, un commentaire pour compléter, dire autre chose peut-être?
Non, tout à fait. Je pense que justement, ce rôle-là éducatif et de respect de règles, de valeurs, je pense que c'est la priorité au moins sur ce que nous, on essaie de mettre en place au club. Voilà, c'est un rôle important qu'il faut qu'on respecte. D'où les différents dispositifs qu'on peut avoir nous en relation avec les différents établissements scolaires. Je pense qu'on y reviendra après. Mais c'est important qu'on puisse respecter ce rôle-là, respecter les éducs, respecter les parents, tous ceux qui tournent autour du terrain, entre guillemets, et ceux qui sont dessus. C'est important.
Est-ce que des événements un peu dramatiques, comme on vient de connaître, ça renforce pas un petit peu dans sa... Et là, je m'adresse plus particulièrement à Gilles, dans son rôle d'éducateur, que ce soit en matière de football, mais je pense aussi aux instituteurs, aux animateurs, aux médiateurs, aux éducateurs divers et variés. Est-ce qu'on se sent pas un peu plus responsable, un peu plus... on a un peu plus envie d'appuyer sur ce rôle-là.
D'appuyer non, de communiquer encore plus. Je pense que c'est ce rôle-là aussi qui est très très important. Je pense qu'il y a vraiment une discussion, un échange à avoir avec tout le monde. Je pense qu'on a la chance, nous, d'avoir, parce que moi je pense que c'est une chance, d'avoir une grosse grosse diversité de population au club. Et je pense que la communication, les échanges, les discours qu'on peut avoir entre toutes ces différentes parties sont très très importantes. Donc je pense que les différents événements doivent justement amener à encore plus de discussions par rapport à ça.
Très bien. Je vous propose, avant qu'on aille un peu plus loin dans la découverte ou la redécouverte, parce que vous êtes quand même un club qui commence à être connu maintenant sur Évreux, on va s'attarder sur les résultats des clubs locaux, des sports locaux qu'il y a eu dans le week-end. J'ai quelques petites fiches sous les yeux. On a reçu aussi des textos, parce que voilà, on dit tout à nos auditeurs, on marche aussi avec les nouvelles technologies. Concernant la LM Basket, vous avez l'habitude, amis auditeurs de Ta Mère en Short, que l'ami Philippe et Deuze parle régulièrement et avec conviction de la LM Basket. Ça jouera demain sur le parquet d'Hier Toulon, et ce sera à domicile vendredi soir du côté d'Évreux, donc à la salle Omnisport, contre Aix-Maurienne. Donc là, il n'y avait pas de résultat à annoncer. Le FC 27, on en a parlé, reprise de la compétition le 8 février. Voilà, en ce moment, c'est des matchs amicaux. On pourra éventuellement y revenir tout à l'heure, mais la compétition, ça reprend donc le 8 février. Le AC Rugby... battu face à l'Aigle 17 à 13 ce week-end, tandis que dans le même temps, donc c'était pour les seniors, l'équipe première, l'équipe B, quant à elle, a réussi à battre l'Aigle 15 à 12. Les filles de l'EVB, l'Évreux Volleyball, ont battu le Valois 3-7 à 1. C'était ce week-end. Et alors, je vais vous lire le petit texto que nous avons reçu d'Anthony Morel, donc de Saint-Sébastien Handball. Le texto est assez long, mais je vais essayer de tout vous lire. Donc, victoire des Verts de Saint-Sébastien, 35 à 27, face à HBCE, le Tréport, en Coupe de France régionale, et donc qualification pour les 16e de finale. Le commentaire du coach, donc un bon match malgré un peu de déchets techniques. On a pu faire tourner l'effectif et donner du temps de jeu aux jeunes. La bonne nouvelle du week-end, c'est la défaite de Cherbourg à Gonfreville qui nous donne un joker. On va justement à Gonfreville ce samedi pour essayer de garder ce joker si important en prévision du match retour à Cherbourg. Il y avait aussi le derby d'Évreux en excellence région féminine, et les filles de l'ASPTT ALM l'ont emporté sur Guichainville-Saint-Cé, 24-18, devant plus de 250 spectateurs. Au classement, l'ASPTT ALM, toujours leader invaincu, et les filles de Saint-Cé-Guichainville, coachées par Julien Lomier, 3e du championnat. N'oubliez pas les championnats du monde masculin jusqu'au 1er février dans l'autre pays du handball, le Qatar, avec un petit clin d'œil humoristique. On en a parlé tout à l'heure des championnats du monde de hand qui se déroulent au Qatar. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans quelques minutes dans le vif du sujet avec nos invités, donc Gilles Bienfait et Jean-Nicky, tous les deux du club de l'EFC 27. Mais avant ça, on s'accorde une petite pause musicale avec le groupe Radio Tarifa.
Tú quieres ya que te toque la lotería, cásate con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Que te quise fue por el
De luna ya no te quiero, es que como sé, la lleva el río como sé, la lleva el agua la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana, si me quisiera, gitana, si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. Le digo a mi abuela, abuela, que me ponga, ponga, ponga el rito en la cazuela, a ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. Oh, oh.
Voilà, vous venez d'écouter Radio Tarifa. Le morceau s'appelle Rumba Argelina. On retrouve donc Gilles Bienfait et Jean Niki. Donc, je rappelle le premier. Gilles, vous êtes responsable jeune donc de la formation plus globalement. Et Jean Niki, donc vice-président et chargé des relations extérieures. On parle bien sûr du club de l'EFC 27. On va revenir un petit peu sur la création de ce club, pour rappel ou ceux qui ne sauraient pas. C'est la réunion, la fusion, je ne sais pas comment on peut peut-être définir ça tout de suite, entre deux clubs historiques d'Evreux, l'EAC et l'ALM. Quand s'est faite cette fusion et puis dans quelles conditions, avec quelle idée, quel projet il y avait derrière autour de cette fusion de l'EAC et de l'ALM. Qui veut commencer ?
Oui, je veux bien. Oui, la fusion, on peut dire ça, la fusion des deux clubs qui avaient un très bon niveau régional, tous les deux dans une même ville, même à niveau national à certains moments, ils sont montés assez haut l'un et l'autre, qui étaient tentés depuis quelque temps, mais qui n'avaient jamais réussi, finalement a abouti en 2009. Donc c'est pas vieux, c'est un club qui a 5 ans, il est dans sixième année. Mais par contre, il est la continuité de l'histoire de deux clubs qui ont une grande histoire. D'abord, l'Evreux Athletic Club, qui est un club qui avait plus de 80 ans déjà, toute une histoire, avec des passages à des niveaux très importants, même aller jusqu'en Ligue 2. Ça ne s'appelait pas comme ça, Division 2, mais enfin, c'est la même chose. Et puis l'ALM, qui a été créée en 64, quand le quartier de la Madeleine s'est développé. Le maire adjoint de l'époque, Roland Plaisance, a voulu développer un certain nombre d'activités en même temps que les habitants arrivaient. Et donc, différentes sections sportives se sont créées, dont le foot en 64, mais qui a eu tout de suite une vocation éducative de par le quartier où il était et de par l'héritage qu'il avait, parce que l'ALM a été créée à partir d'une association qui a été créé en 1898, qui s'appelait les Amis de l'école publique de la Madeleine, qui avait été créé par des enseignants qui voulaient continuer le temps scolaire par des activités sportives, sociales et éducatives. Donc, donc ce club s'est appelé Amical Laïque de la Madeleine, pas par hasard, c'est parce qu'on avait et les gens qui ont été là ont beaucoup travaillé là-dessus. Tout cet esprit, on est tous réunis par la même chose, à savoir on a un esprit d'éducation. Et c'est ce qui nous guide, et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec l'EAC, la fusion s'est faite très bien en 2009, sur des objectifs très clairs de développer le travail éducatif, d'améliorer les installations sportives d'Evreux parce qu'il y en avait besoin. D'abord en développant sur le quartier de la Madeleine des installations de football que beaucoup de clubs nous envient hein, dans toute la Normandie. Hein, parce que les gens aiment bien venir jouer ici, les installations sont de bonne qualité. Il faut remercier la ville, enfin, les différents responsables d'avoir pu continuer ce travail-là. Et puis ça a permis aussi en bas, au stade Jean-Bouin, où il y avait quand même à la fois le football, le rugby, l'athlétisme, le triathlon, c'était un peu difficile. Ça a permis aussi une aération sur les autres sports, notamment le rugby et l'athlétisme. Donc c'est ce partage-là. Alors l'esprit, c'est celui-là. C'est essentiellement un travail éducatif, mais en même temps, on a de l'ambition. On a l'ambition aussi d'aller le plus haut possible, de travailler avec les meilleurs. Et c'est ce qui est en train de se faire.
Justement, quels sont un peu les objectifs à court, moyen, long terme, notamment pour l'équipe première? Vous êtes actuellement en division d'honneur, c'est comme ça qu'on dit. Il y a une rétrogradation, une relégation il y a 2 ou 3 ans maintenant, de mémoire, peut-être 4 ans. Vous étiez en CFA, CFA 2.
CFA 2, oui.
Voilà. Quelle est la suite des événements pour le FC 27, notamment pour l'équipe première? Vraiment en termes de compétition, vous disiez on souhaite d'être le plus haut possible, mais concrètement, quelle serait la place idéale que vous ambitionnez?
Oui, bien sûr. Donc il faut rajouter que le club s'est créé en 2009. Le premier président a été Mathieu Bodmer, qui était un joueur professionnel issu d'Evreux, avec Bernard Mendy, d'autres clubs, et avec le soutien de Steve Mandanda, qui est aussi le gardien de Marseille aujourd'hui, qui sont des garçons d'Evreux. Mathieu Bodmer a dit « Moi, je veux redonner à ma ville et au sport ce qu'on m'a permis d'être », donc il a pris la présidence pendant quelques années, 4 ans. Mais quand on est sportif professionnel, c'était à Lyon à l'époque, puis au PSG, puis à Marseille, puis à Nice, parce qu'il est actuellement à Nice. C'est difficile à distance de diriger un club. Donc, il y a 1 an et demi, il a cessé l'activité et on a pris le relais de ce qui existait. Mais l'ambition est la même, à savoir permettre aux meilleurs d'évoluer au plus haut niveau possible et espérer un jour avoir une équipe senior au niveau national. C'est le CFA 2, mais peut-être même le CFA, voire le niveau au-dessus. Essentiellement à partir des joueurs locaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à former de bons joueurs et arriver à les garder aussi. Parce que c'est normal, on récupère dans ce club les meilleurs joueurs du département quand ils sont très jeunes. Et puis ensuite, nos tout meilleurs s'en vont vers les clubs professionnels. Puisqu'aujourd'hui, depuis que le FC existe, c'est-à-dire 5 ans, on a actuellement 29 joueurs qui sont dans des clubs professionnels en France ou à l'étranger. Soit comme contrat de stagiaire, soit comme contrat de professionnel. Ça veut donc dire que ce travail éducatif, il continue d'être. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est pas valorisant parce que vous formez des jeunes et puis ils ne restent pas chez vous. C'est la règle du jeu. Mm-hmm. Les meilleurs s'en vont, mais comme on en forme beaucoup, et Gilles pourra expliquer un petit peu ce qu'on fait au niveau des sections foot notamment, comme on en forme beaucoup, on espère qu'avec le temps, on sortira des équipes qui atteindront le niveau national aussi bien en senior que dans nos catégories 17 ou 19 ans, car actuellement, on peut le dire, on est en tête dans tous ces championnats à mi-parcours. Ça ne veut pas dire qu'on le sera à la fin. Mais pour l'instant, on est en tête, aussi bien en 17 ans qu'en 19 ans et qu'en senior. Les féminines ne sont pas loin non plus. On verra cette saison. Mais ce qui nous motive, c'est le travail au quotidien. Bien sûr, en football, on est content quand on gagne.
Évidemment.
On va pas vous dire qu'on joue pour perdre, j'en connais pas. Seulement dans un match, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Donc il faut aussi accepter les règles, savoir qu'on peut perdre quand on joue. Bon, sachant que la plus belle des victoires est celle que l'on obtient sur soi-même, mais pas forcément sur l'adversaire. Voilà, donc les motivations et le sens de ce qui est fait. Et alors, donc au niveau qualitatif, c'est ça. Mais on n'abandonne pas, par d'autres projets dont Gilles va peut-être vous parler, tout un travail éducatif et social.
On va avoir l'occasion évidemment d'en reparler. J'avais juste une petite question là qui me... J'en ai plusieurs évidemment, vous l'aurez compris, mais Il y a possibilité pour les, notamment chez les jeunes, là, U17, U19, quand ils sont premiers de leur classement à la fin de la saison, ils montent à la division au-dessus. Ça fonctionne comme chez les pros, en fait.
Alors, c'est pas comme chez les pros, c'est comme pour tous les clubs de niveau ligue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on finit premier de sa plus haute division régionale, il y a un niveau national. Donc, les 17 ans nationaux, 19 ans nationaux. Ces deux catégories-là, ce qu'il n'y a pas en 15 ans, puisque la Fédé, c'était un souhait à arrêter les 15 ans nationaux pour différentes raisons. Et donc en 17 ans, il y a des 17 ans nationaux où il y a quand même pas mal de clubs pro qui
oui, font. On imagine que c'est trusté par les grands clubs historiques.
C'est ça, et très compliqué pour des clubs amateurs un petit peu comme nous. On l'a vu il y a 3 ans avec les 17 ans nationaux qu'on fait un an, qui sont redescendus après. Mais c'est toujours très très intéressant dans la formation d'un joueur de pouvoir s'essayer sur un voire plusieurs années, et puis surtout d'essayer d'y rester au maximum.
De se confronter à ce qui se fait de mieux dans cette catégorie d'âge, ouais. Les joueurs, notamment de l'équipe première, ne sont pas des joueurs professionnels. Est-ce qu'ils ont des défraiements, une quelconque retombée financière ou pas du tout? Une question comme ça qui me vient, parce qu'on parlait de formation, de joueurs professionnels ou non. Voilà.
Il n'y a pas de joueurs rémunérés au club. Par contre, pour tout le monde, lorsqu'il y a des victoires, il y a une prime de victoire.
D'accord. Et qui s'élève à
Actuellement, c'est 80 euros par match.
D'accord. Par joueur.
Par joueur.
Très bien. Juste des petites questions financières comme ça qui me venaient. On parlait du club en général et pas uniquement de l'équipe première. Combien il y a de sections à l'EFC 27 précisément? Voilà, il y a notamment une catégorie aussi futsal, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, entre les questions de jeunes et les sections de jeunes, pardon. Oui, je vous en prie, Gilles.
Donc on a toute la partie garçons, de débutants à vétérans, puisqu'on a aussi une équipe vétéran. On a toute la section féminine, puisque maintenant ça a été aussi des raisons de la fusion, de garder cette équipe féminine, puisqu'à l'EAC elle était en deuxième division. Donc elle a perduré aussi un petit peu, avec un ou deux ans un petit peu plus difficiles qui l'a fait descendre aussi en division d'honneur. Et depuis, j'ai repris aussi cette section-là depuis 3 ans. Et ça reprend et ça remonte doucement aussi. On a aussi le futsal qui s'est arrêté aussi depuis 2 ans maintenant, mais il y avait une équipe futsal, effectivement.
D'accord, pardon. Je n'avais pas les bonnes infos, désolé.
Et puis après, il y a toute la partie section sportive, éducative, sur une partie féminine et une partie masculine aussi, sur le suivi du lycée.
Justement, sur l'aspect du foot féminin, vous avez les mêmes catégories que chez les garçons, c'est-à-dire qu'il y a, ça va des débutants jusqu'au senior vétéran, où il y a des trous entre guillemets dans certaines catégories où on a moins de filles de 15 à 17 ans par exemple.
Alors c'est les mêmes licences, sauf qu'elles peuvent jouer en mixité jusqu'à 15 ans.
D'accord, donc avec les garçons.
Voilà. Alors le football féminin est en plein développement. Mm-hmm. À partir de 16 ans, c'est que des équipes féminines. Elles ne peuvent plus jouer en mixité. Par contre, depuis 2-3 ans maintenant, et sur la Ligue de Normandie, il y a des championnats que de foot féminin, puisqu'il y a eu pas mal de licenciés qui sont arrivés aussi, et ça se développe énormément. Donc à partir des débutants maintenant, et nous, on en fait partie aussi, nous avons des équipes féminines dans toutes les catégories.
D'accord.
Donc on a des débutantes des U7, U9, U11. On a 2 équipes féminines, sauf que les catégories sont un petit peu différentes des garçons. Voilà, donc les filles ont une catégorie U9, une catégorie U11, et après ça bascule directement en U15.
D'accord. Voilà,
donc il y a un trou de U13, nous, sur notre ligue. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres ligues où ils ont un championnat. Donc ça reste un petit peu à la charge des ligues d'organiser la gestion du foot féminin. Mais nous, on a une ligue qui se développe gentiment et tranquillement aussi.
Et donc les filles, elles s'entraînent à part, elles ne s'entraînent pas avec les garçons aussi. Ça dépend.
Sur les jeunes, on fait séance commune. Donc ouais. Sur les toutes petites, les débutants là depuis, et puis par rapport à l'effectif aussi. vu qu'elles ne sont pas encore très très nombreuses sur l'école de foot. Là, depuis le début de saison, on les fait s'entraîner avec les garçons pour que ça soit aussi plus intéressant pour elles, plutôt que de faire séance à 5 ou 6.
Ouais.
Et par contre, après, à partir des U15 féminines, la section sportive et senior, elles font séance qu'entre elles. Alors, j'aime pas à part, parce qu'on est quand même sur les mêmes installations, les mêmes infrastructures.
Oui. Au même moment, plutôt.
Voilà, elles font séance sur les mêmes installations, en même temps que les garçons, et sur un terrain un peu différent.
Et puis, ce qu'on comprend là, dans ce que vous venez de dire, c'est que voilà, ça participe aussi de cette mixité dont on a parlé tout à l'heure un petit peu, et notamment entre garçons-filles, c'est important. Jusqu'à, donc, on leur a compris, jusqu'à 15-16 ans, il y a une réelle mixité dans l'école de foot.
Elles sont d'ailleurs de plus en plus présentes, non seulement à l'entraînement, mais également aux matchs des garçons.
Elles viennent supporter.
Oui, tout à fait. Il y a une excellente ambiance et elles viennent supporter les garçons. Elles se sentent vraiment dans le club.
Combien d'adhérents au total et d'équipes ?
Alors, on a eu plus de 600 licenciés au club depuis maintenant un long moment. Une petite baisse un peu, mais qui reste le plus gros club régional. En termes de nombre de licenciés, on a 31 équipes avec une cinquantaine d'éducateurs pour pouvoir s'en occuper. Donc voilà, une structure très importante. Comme disait Jean tout à l'heure, en fait, on essaie d'allier la masse, mais aussi voilà, la partie aussi élite, entre guillemets, à partir des 17-19, puisque ça reste le vivier du club sur la formation.
Combien de salariés ? On vient de parler de 50 éducateurs, une cinquantaine d'éducateurs, ils sont tous salariés ou il y a des bénévoles ? Enfin voilà, un petit peu un ordre d'idée entre le nombre de salariés et le nombre de bénévoles, c'est peut-être ça plus ma question.
Oui, non, les 50 salariés,
c'est
après leur travail en bénévolat. Bon, ils sont défrayés de leur travail, bien sûr, hein, parce que trois fois par semaine, toute l'année, ça dure toute l'année. On démarre au mois d'août et on finit au mois de juin, hein, donc... Mais il y a 5 salariés aujourd'hui, 5 plus 3 d'ailleurs, donc ça fait un total de 8 salariés au club. Mais la plupart des éducateurs sont des éducateurs qui sont vacataires, qui ont des diplômes, parce que de plus en plus, on forme le district de l'Eure et la Ligue de Normandie forment les éducateurs, c'est son travail. Une partie importante de son travail, c'est de faire évoluer les clubs et notamment de former des éducateurs et de les suivre après également. Donc, on a aussi, pas seulement pour les joueurs, mais pour les jeunes qui veulent devenir éducateurs, une politique de formation au club. Et on souhaite développer, d'ailleurs, la plupart, enfin, Gilles pourrait mieux en parler que moi, mais la plupart de ceux qui interviennent ont été formés au club.
Alors justement, oui, comment fonctionne, Gilles, un peu cette école de foot, cette formation ? On a parlé des différentes catégories, mais voilà, comment on fait vivre une école de foot au quotidien ? Et s'il y avait des éléments peut-être plus importants que d'autres à soulever, quels sont-ils ?
C'est un gros chantier, l'école de foot, parce qu'on a quand même plus de 180 jeunes, de U7 à U11. Et c'est une grosse, grosse partie de la structure. C'est vrai qu'ils font entre une et trois séances par semaine. Donc les U11 commencent à faire trois séances. Et la priorité reste la formation dans le respect des règles sur cette école de foot-là. La priorité, c'est qu'ils progressent, mais surtout qu'ils s'amusent. Ouais, y a rien de tel, et pour nous, c'est la meilleure des récompenses de les voir repartir après chaque séance avec la banane. Ça reste la priorité. Voilà. Donc, on forme des éducateurs pour ça. Je pense que sur les U7, qui restent une catégorie un petit peu jeune encore, puisque avant on commençait le foot à 6 ans, maintenant on peut le commencer à 5, il y a une catégorie supplémentaire. Je pense que ça reste plus de l'animation que du football. Mais on fait sur le terrain du foot à part entière avec eux, sans objectif de résultat. Il faut savoir que sur l'école de foot, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de compète, et c'est très très bien. Voilà, la priorité, c'est vraiment qu'ils s'amusent. La Fédé a arrêté les compétitions à partir des U11. Ils se posent même la question de savoir s'ils vont continuer sur les U13, parce qu'on voit le bénéfice que tout le monde peut en tirer. C'est vraiment plus de championnat ou de championnite entre guillemets entre certains éducs. c'était peut-être le cas avant, alors que maintenant, c'est les relations entre éducateurs, entre clubs autour, on sort grandi sur ces catégories-là. Voilà, donc c'est nous, la priorité sur les jeunes, elle est là. C'est vraiment de les faire progresser, mais qu'ils prennent du plaisir à venir s'entraîner.
Alors, je crois qu'on l'aura bien compris, mais c'est vrai qu'il y avait, dans ce que vous venez de dire, deux mots importants à retenir, le plaisir et puis surtout l'amusement. Voilà, le sport en général et notamment le foot, c'est avant tout un jeu. Et il faut prendre du plaisir et il faut s'amuser. On s'accorde une petite pause musicale et on va continuer de parler donc avec, je le rappelle, Gilles Bienfait et Jean-Nicky, tous les deux du club de l'EFC 27. On repart en musique avec un petit peu de ska. Lucas Cubano, Cachita, voilà, c'est ce que vous venez d'écouter sur l'antenne de Principe Actif. Vous êtes bien toujours dans Ta Mère en Short, l'émission qui vous parle de sport. Nous sommes avec Gilles Bienfait et Jean-Nicky, tous les deux représentants du club EFC 27. On parle donc de football, pour rappel. Continue notre interview, notre échange avec vous, messieurs. On a parlé un petit peu, quand on se renseigne sur votre site internet, sur vos activités, d'un projet particulier, projet foot travaillé. J'aurais voulu qu'on en discute un petit peu. Quelles sont les missions, les objectifs de ce projet foot travaillé?
Foot travaillé, c'est un vaste projet en fait qui a été élaboré par un des anciens salariés du club puisqu'il est parti au mois de septembre, qui est Grégory Badache, pour lequel on a repris aussi nous le flambeau, qui consiste en fait à suivre tous les licenciés du club à partir du collège. Donc en fait, on a des conventions de partenariat avec les collèges d'Evreux, quasiment tous, ce qui fait qu'à aujourd'hui, on a 230 licenciés qui sont suivis au niveau scolaire. Et donc, ça leur permet d'avoir la tête et les jambes, parce que c'est important aussi pour un sportif, mais aussi pour un homme ou une femme, d'avoir et la tête et les jambes. Donc, on travaille sur ce projet-là. Ce projet a été récompensé aussi par le grand jury de l'Assemblée nationale en 2010. Donc, c'est quelque chose qui tourne maintenant très, très bien. Et les collèges sont très friands aussi, parce que ça permet à certains jeunes qui dévient, de pouvoir les remettre aussi à un moment donné dans le droit chemin par cet intermédiaire-là.
Et alors concrètement, quelle est votre action auprès des jeunes? Est-ce que le club, le FC 27, les éducateurs mettent le nez dans les devoirs des collégiens, ou c'est un petit peu autre chose?
Tout à fait, les éducateurs suivent. Alors on a un référent qui est maintenant Romaric Bultel, qui a pris en fait la place entre guillemets de Grégory à son départ. Qui est en contact avec les CPE et puis les différents principaux et directrices de collège, de façon à avoir un suivi régulier des notes, du travail, du comportement, de l'assiduité des enfants à l'école. Et donc en cas de non-respect, entre guillemets, on arrive à certains moments à mettre en place ce qu'on appelle des contrats éducatifs d'objectifs avec la famille, avec l'élève, avec le club et l'établissement scolaire, de façon à essayer de rectifier soit le manque de travail, soit le manque d'assiduité, soit le comportement ou l'attitude d'un ou de plusieurs élèves.
Si un collégien a des mauvaises notes ou va pas en cours, il est privé de foot, c'est ça?
Ça arrive.
Pour schématiser un
peu. Ça arrive, voilà. Ça arrive à un moment donné qu'on puisse sanctionner jusque-là, de façon aussi à faire comprendre aux enfants que la scolarité reste la priorité, que le foot, c'est très très bien, il faut en faire, ou d'autres activités sportives, mais ça suffit pas pour vivre. Et c'est le message qu'on essaie de leur faire passer, nous, ou alors ça dure qu'un temps. Pour ceux qui ont la chance d'être élus, entre guillemets, et de passer professionnel, ça dure qu'un moment. Une blessure est vite arrivée, ça peut s'arrêter très vite aussi. Donc il faut aussi qu'ils anticipent et qu'ils pensent aussi à l'après-foot. Donc nous, notre rôle, il est là, de façon à ce qu'ils partent avec un minimum de bagages scolaires. Voilà. Donc il y a sanctions de temps en temps, ça est très rare. Mais par contre, il y a sanctions, pas pour rester, entre guillemets, chez eux. Si c'est par rapport au travail, ils viennent sur la séance et travaillent au club.
Donc vous avez au sein du club des personnes formées aussi à l'accompagnement scolaire?
Formées, non, c'est un suivi aussi qu'on a avec les enseignants. Ouais, ils donnent du travail à faire aussi un petit peu. Nous, on vérifie aussi, mais c'est très rare. Voilà, ça arrive vraiment que très rarement. Les contrats sont mis en place. L'accompagnement, c'est plus avec les CPE et l'établissement scolaire.
Oui, c'est vrai aussi, chacun son rôle aussi. Il y en a qui sont là pour former à l'école et d'autres qui sont formés là pour former au foot, évidemment. Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue en tout début d'émission sur cette fracture un peu de la société française et le fait que, vous le disiez vous-même, Gilles, dans le football professionnel, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, il y a peu de jeunes, et essayer de leur faire comprendre que le foot, c'est pas la seule porte de sortie et que voilà, ça peut être il doit y avoir beaucoup de déceptions, notamment chez les jeunes. Voilà, de ne pas devenir professionnel, on peut comprendre la frustration que ça peut engendrer, mais c'est évidemment une réalité. On ne peut pas tous devenir joueurs de foot professionnels.
2 millions de licenciés au foot, 1000 footballeurs professionnels.
Oui, voilà. Bon. Merci de rappeler ces chiffres, Jean. C'est vrai que c'est... Non, mais on voit bien le contraste, quoi. On a parlé de foot travaillé, un petit peu de l'école de foot. Vous me parliez aussi hors antenne du travail avec un centre éducatif renforcé, CER. Donc voilà, ça contribue aussi. il se régule. Hein. Moi, je dis tout aux auditeurs, il y a pas de problème. Mais donc, il y a le travail vraiment accompagnement avec les établissements scolaires. Il y a aussi un travail fait avec ce qu'on appelle des délinquants entre guillemets. Donc, comment ça se passe un petit peu ce travail ?
Qui sont en centre, délinquants, ouais. Et qui sont en centre et suivis. Voilà, après,
c'était pas très beau, hein. Pardon.
Mais c'est vrai que c'est, ça en fait partie du rôle aussi qu'on peut avoir, notamment par l'intermédiaire du coach de première, avec Draman, qui est éducateur spé dans ce milieu-là. Donc, lui a souhaité aussi, à un moment donné, leur faire découvrir la partie éducative du foot. Et pas que la partie joueur et terrain. Donc du coup, on a un partenariat qui leur permet de temps en temps de venir sur quelques séances, voir comment se passe le rôle d'un éducateur, avec une partie aussi en salle, pour leur montrer comment on fait des séances, qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur, et comment on gère un groupe, ce qui n'est pas toujours non plus donné à tout le monde, ça ne s'improvise pas. Donc c'est important aussi qu'ils puissent avoir ce relais-là, et par rapport à la partie éduc, de mener et d'avoir un groupe en face de soi, quand on est dans ce genre de centre, des fois ça peut aussi mettre en difficulté. Voilà, donc c'est important qu'ils puissent avoir ce rôle-là.
Très bien. Des questions peut-être un peu plus terre à terre entre guillemets. Comment ça se passe pour les inscriptions ? Voilà, j'ai un fils, une fille. Ils voudraient venir faire du foot chez vous. Quels sont les tarifs et les conditions d'inscription ? Modalités ?
Alors, plus que modalités, voilà. Conditions non, c'est surtout les modalités. Où c'est vrai que les inscriptions se font surtout pour nous août-septembre, un petit peu octobre. Mais c'est plus rare parce qu'en plus, c'est vrai qu'avec le nombre qu'on a, c'est important de faire assez vite. Après, il faut prendre un dossier d'inscription qui est à retirer au secrétariat, au club. Et puis, voilà, il faut passer au médecin, comme toute activité sportive, avec le dossier d'inscription, une fiche de renseignement, une photo d'identité et un tarif de cotisation qui va de 70 euros pour un U7 à 120 euros pour un senior.
Il faut mettre la licence en plus, c'est ça ? Quand il y a de la compète ?
Non, c'est avec. C'est tout compris, d'accord. En fait. Voilà, c'est pour ça que ça reste...
très abordable.
Voilà,
je crois qu'on peut dire ça.
Quand on le remet, c'est toujours trop cher pour les gens, mais je pense que quand on le remet au tarif horaire, au nombre de séances et au nombre de temps passé sur le terrain, c'est par rapport à d'autres activités, ça reste un sport populaire, pas très cher.
Ça fait moins d'un euro par heure de présence sur toute une année, si on le dit de cette façon-là. Donc effectivement, on est bien obligé de faire payer quand même une cotisation, parce qu'il y a un encadrement, il y a des déplacements, il y a des véhicules, il y a des formalités administratives. Vous parliez du club là. Donc pour s'inscrire, on peut rappeler que le club, il est à la Madeleine. Il est en face de la piscine de la Madeleine, pour ceux qui ne le sauraient pas, là où il y a la passerelle, où il y a les tennis. Et il y a Intermarché en face, donc c'est là que se situe le club. Et comme il y a des salariés, il y a une présence aux heures de bureau toute la semaine.
Très bien. On rappelle aussi que vous avez un site internet, donc on peut aussi aller on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on peut aller se renseigner et voir un petit peu aussi les résultats, suivre toute l'actualité en fait de l'EFC 27.
Voilà, notre webmaster David Castel. Lui tient le site tous les jours, donc il y aura tous les résultats, tous les matchs à venir, des reportages, des photos. Vraiment, allez sur le site EFC 27, vous aurez tous les renseignements sur le club, sur les résultats et sur non seulement les résultats, mais également le programme.
Alors, on aime bien aussi dans cette émission et plus généralement à Principe Actif, s'intéresser aussi aux gens, aux personnes qui font vivre, là en l'occurrence, les clubs et plus particulièrement le FC 27. Voilà, concrètement, quelle place prend le FC 27 dans vos vies? Jean, vous êtes bénévole, vice-président. Gilles, vous êtes salarié de ce club-là. Voilà, en termes de volume horaire, de jours passés à penser, à travailler, à s'agiter le bocal et le corps aussi pour le FC 27. Jean, vous voulez peut-être commencer
Oui, je peux commencer. Naturellement, pourquoi les salariés? Parce qu'à un certain niveau de nombre d'organisations, de déplacements, de matchs, il faudrait vraiment des bénévoles à temps complet. C'est qu'on n'en trouverait pas suffisamment. Donc le club a besoin de salariés. Ce sont essentiellement les salariés qui assurent le quotidien, tant administratif que technique. Donc des salariés qui font plus de 35 heures par semaine, hein, entre parenthèses, hein. On ne va pas compter, mais je ne devrais pas le dire là parce qu'ils vont réclamer de l'augmentation. Mais...
Plus de 50, non.
Mais effectivement, qui ne comptent pas leurs heures. Après, si l'essentiel du travail au quotidien est nécessaire, parce qu'il y a quand même, il faut laver les maillots, s'occuper des véhicules, faire les papiers, etc. Hein. Et puis avec nos classes, nos sections sportives, ça demande un quotidien aussi, puisque ces jeunes-là s'entraînent 4 fois par semaine sur le temps scolaire. Il faut aller les chercher, les ramener. Donc évidemment, ce n'est pas un bénévole qui pourrait faire ça. Donc il y a à la fois des salariés, mais il faut aussi des bénévoles. D'ailleurs, c'est peut-être un appel qu'on peut faire là. Tout le monde est bienvenu si on veut faire du bénévolat. Alors certains en font plus ou moins, peu importe, mais il y a tellement d'activités à mener dans un club. Il y a évidemment un président, un trésorier, il y a le fonctionnement au quotidien. Bon, il y a un directeur administratif ou financier aussi qui fait un très gros travail dans le club, qui est Sylvain Bodmer, qui est effectivement est un peu l'organisateur de tout ce qui se passe, et les relations commerciales aussi. Mais ensuite, on a besoin de beaucoup de choses, parce que les équipes ont besoin d'accompagnateurs bénévoles. C'est souvent des parents qui accompagnent les entraîneurs. Il y en a beaucoup. Il y a besoin d'une vie également à la buvette, parce qu'il faut une convivialité, et pas simplement du plaisir, mais le plaisir, il faut aussi de la convivialité. Or, ouvrir une buvette toute l'année, tous les jours, tous les week-ends, parce qu'on joue tous les week-ends. Si des gens ne savent pas quoi faire un samedi ou un dimanche, vous passez par la Madeleine, vous rentrez, vous regardez, il y a des matchs tout le temps, de bon niveau, excellent football, c'est gratuit. Et ça fera plaisir aux joueurs de voir qu'il y a des gens. Donc moi, j'invite les gens qui aiment le foot à passer beaucoup plus au stade. Et donc, il faut, par exemple, un club house. Donc voilà, il y a tout un bénévolat autour de l'accompagnement des équipes et puis aussi de la vie au quotidien. Et donc c'est un peu ça. Donc en fonction de ça, il y en a qui en font un peu plus, il y en a qui en font un peu moins, naturellement. Mais même si quelqu'un fait qu'un petit quelque chose, c'est bienvenu pour le club.
Gilles, vous disiez en rigolant, 50 heures par semaine, c'est...
En gros, on en est pas loin, voire un peu plus. Ça reste une passion, ça reste un métier, mais je pense qu'il y en a quand même des métiers plus compliqués. Donc on n'a pas trop le droit de se plaindre, parce qu'on fait notre passion. C'est une passion qui prend du temps, voilà, parce qu'il y a des parties terrain, il y a des parties administratives, mais ça reste un métier très intéressant. Donc même quand on rentre à la maison, on est encore à gérer aussi, soit par téléphone, soit par texto, en échange, sur des éducateurs, des joueuses, des joueurs, voilà. Donc c'est un travail 7 jours sur 7. Pas 24-24, parce qu'on dort un petit peu quand même.
Quand même, mais, hein, il faut.
Il faut. Mais bon, voilà, ça reste très, très intéressant en faisant sa passion.
Quelle formation vous avez fait pour être éducateur sportif?
Alors moi, j'ai une formation universitaire STAPS. Donc j'ai une maîtrise STAPS que j'ai fait à Caen à la base pour essayer de passer le CAPEPS. J'ai loupé à 2 reprises, et donc en fait après je me suis réorienté dans la partie fédérale. Donc je suis moi arrivé à l'EAC en emploi jeune à la suite de ma maîtrise TAPS et du CAPEPS, du concours non réussi. Donc j'ai un bac plus 4 et après l'emploi jeune de l'EAC avec Norbert Lecomte à la présidence. Cet emploi-là a été pérennisé et ça m'a permis de passer mes formations, mes diplômes d'éducateur. de brevet d'État premier degré.
C'est un brevet d'État.
Alors, au foot, on a des diplômes fédéraux avant, donc voilà, qu'on appelle maintenant le CFF1, certificat de formateur de football 1, 2, 3. Et après, voilà, on passe le brevet d'État, le BMF maintenant, qui est le premier diplôme qui permet d'entraîner contre rémunération. Voilà, donc c'est le premier diplôme qui permet d'avoir un contrat pour entraîner. Et donc moi j'ai un DES, donc le deuxième degré, brevet d'État deuxième degré, que j'ai obtenu l'année de la fusion.
Très bien. Pardon Jean, je vous en prie.
Sachant que compte tenu du niveau des équipes, c'est le cas quand ça évolue en division d'honneur, promotion d'honneur, où évoluent toutes nos équipes, une et deux, nos équipes 2, dans toutes les catégories, sont au deuxième niveau régional, il faut un éducateur qui a au moins un type de diplôme. C'est-à-dire qu'il faut au moins un brevet d'État premier degré dès qu'on le touche au niveau division d'honneur. Donc, mais en même temps, c'est un gage de qualité de travail.
Évidemment. Oui. Vos pratiques sportives, Jean, vous arrivez encore à courir. C'est pas très gentil de ma part.
Je ne vais pas dire mon âge, mais bon.
Non, vous pratiquez encore le sport.
Je pratique régulièrement le tennis et la course à pied, après avoir été footballeur, parce que souvent, on a été footballeur quand même, moi, il y a quand même bien longtemps. Hein. C'était au début de la LM, dans les années 60, hein. Toute une histoire. Et donc, je pratique toujours régulièrement le sport. Mais tant que je pourrai, je le ferai.
Gilles,
Moi j'étais footballeur aussi, puisque quand je suis arrivé j'étais joueur aussi avec la CFA2 de l'EAC. Et voilà, après la partie est familiale et aussi professionnelle, parce que être éduc prend aussi beaucoup de temps. Donc j'ai arrêté de jouer moi il y a maintenant 8-9 ans, mais voilà, continuer à trottiner un petit peu. De temps en temps,
ouais,
mais c'est dur de trouver le temps quand on est sur le terrain tout le temps, mais bon, il faut de temps en temps.
Alors on a une question un petit peu traditionnelle, un peu récurrente dans cette émission, le regard des clubs et surtout des personnes qui font vivre ces clubs, donc aujourd'hui ce sera évidemment le vôtre, sur la fédération de française de football évidemment, et puis peut-être plus largement celle qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de poser, mais j'ai envie de reprendre une expression d'un des commentateurs assez célèbres du football. Donc un regard sur la fédération d'abord, et puis sur le football circus, dixit Stéphane Guy, donc un commentateur de Canal+, pour ne pas le citer. Voilà, votre regard un petit peu sur la fédération et sur le monde du football plus largement.
Oui, bah je veux bien dire le mot. Personnellement, je prends plus de plaisir au travail local dans mon club et aux jeunes. Je vais voir plus souvent qu'au sport professionnel. Naturellement, je reconnais toutes les qualités, le plaisir du jeu, parce que quand on aime le foot, on a plaisir à voir naturellement Messi, le Barça, bien sûr. Mais presque comme spectacle. C'est un sport. Ce sport professionnel, je lui reproche un petit peu de ne pas toujours montrer l'exemple. Bon, alors il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de comportements un peu déviants, mais personnellement, moi, si vous m'interrogez, donc je le dis, j'aimerais un peu. Ça nous faciliterait la tâche dans les petits clubs d'avoir des comportements un peu plus respectueux. Et quand je vois protester après l'arbitrage ou après une décision qui ne convient pas ou des actes comme ça, alors je comprends bien que bon, dans l'action, on peut des fois avoir des déviances. Mais je le regrette un petit peu. Je regrette aussi que nos dirigeants, puisque vous m'interrogez, la fédération, bon, j'ai été longtemps à la Ligue de Normandie de football et même un peu à la Fédération française de foot sur l'équipe jeune. Donc je regrette que le football n'ait pas su faire évoluer les règles pour qu'il y ait un peu plus de respect dans le jeu. Parce que je le vois dans d'autres sports collectifs. C'est formidable, un sport collectif. Ça apprend à vivre ensemble. Ça apprend que la force, c'est la différence. C'est-à-dire, on n'est pas tous pareils. Les qualités d'un gardien de but, ce n'est pas celle d'un avant-centre. Mais on a besoin de tout le monde et on a besoin que tout le monde joue ensemble. Mais on a besoin aussi de respect. Et notamment quand on est des idoles. Ça faciliterait peut-être un peu le travail dans les clubs, de tous les clubs, je parle de tous les clubs de France, il y en a 20 000, d'avoir des modèles positifs, même si on peut comprendre la passion. Moi, j'aurais bien voulu qu'on puisse faire évoluer des règles pour qu'à l'image du rugby, par exemple, les joueurs aient un autre comportement et les sanctions déviantes soient un peu plus condamnées.
Très concrètement, vous parlez de l'arbitrage.
Il faut aider, c'est très difficile l'arbitrage et il faut aider les arbitres. Et je pense que l'évolution des règles pourrait leur permettre d'aider les arbitres.
Et quand vous faites la comparaison avec le rugby, c'est concrètement, quand un joueur de rugby conteste la décision de l'arbitre, il prend 10 mètres dans la vue. Enfin, l'appellation qu'on utilise,
par exemple,
tu prends 10 mètres. Donc, vous faites reculer de votre équipe de 10 mètres. Donc, ça pourrait être une idée pour le foot d'avancer un coup franc de 10 mètres.
Nous l'avons fait avec le district de l'Eure sur les équipes de jeunes il y a quelques années. On a testé ça. L'exclusion temporaire pour calmer un joueur, un travail plus entre les arbitres. Donc on a testé au niveau local. Je regrette que ça ne puisse pas montrer l'exemple au niveau professionnel. Bon, je comprends, il y a d'autres raisons qui dirigent, mais bon, puisque vous m'interrogez, je vous le dis, j'aime regarder le rugby parce qu'il y a un respect. L'arbitre d'abord lui-même explique ce qu'il fait et les joueurs ne contestent pas, sinon ils sont sanctionnés tout de suite et notamment quand il y a un mauvais geste, ils sont exclus. J'aimerais voir ça dans le football professionnel.
Gilles, vous souhaitez compléter ?
Je partage le même avis. Je pense qu'il faut, qu'on arrive à améliorer peut-être l'image de ce milieu professionnel. Parce que c'est, comme disait Jean tout à l'heure, nous on lutte aussi après en tant qu'éducateurs pour récupérer un petit peu les déviances de ce foot-là. Donc améliorer les règles de façon à améliorer les relations entre arbitres et joueurs et joueurs-arbitres dans les deux sens. Je pense que ça serait très intéressant et au même titre, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du rugby par rapport à cet esprit-là.
Il y a peut-être aussi le paramètre économique et financier. Je pense qu'il est les dérives du foot business impliquent aussi, font dériver peut-être les comportements de certains professionnels. Bah,
je ne sais pas. Le rugby est professionnel maintenant, ça n'a pas changé grand-chose. Donc je pense que peut-être que les sommes sont ou les montants sont différents, mais le rugby est professionnel maintenant et l'état d'esprit est resté. Je pense qu'on a quand même beaucoup de retard là-dessus.
Dernière chose avant de rendre l'antenne, puisqu'on nous sommes déjà un petit peu en train de déborder, mais dans cette émission, on joue souvent les prolongations. Un souvenir marquant en tant que bénévole ou salarié de ce club, de l'EFC 27, ou plus largement, peut-être des souvenirs de plus jeune ou quand vous-même vous jouiez encore. Voilà, quelque chose qui, une victoire particulière ou une défaite vraiment difficile à supporter.
Pour mon cas, deux choses. La première reste pour moi une montée en tant que joueur avec le AC Foot sur une montée de CFA2, DH en CFA2, avec une année avec le groupe qu'on avait, très 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 bonne année et qui s'est soldée par la montée. Donc un très très bon souvenir au bout. Et puis après, vraiment la victoire de l'équipe de France en 98 pour moi qui restera quand même la plus marquante.
En espérant qu'il y en ait peut-être d'autres. Hein.
J'espère.
L'équipe joue pas si mal. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de l'équipe nationale, mais elle s'en sort plutôt bien maintenant que Deschamps est là. Ça va un peu mieux. Jean, vous auriez un souvenir, quelque chose qui vous a particulièrement marqué.
Oui, bien sûr. Alors pour revenir à l'équipe de France 98 aussi, puisque à l'époque j'étais donc président de l'ALM et on avait ouvert la maison de quartier, un écran géant avec tous les jeunes qui sont venus assister à la finale. Donc moi-même j'y suis allé avec mon ami Jacques Bouvray qui est venu de Val-de-Reuil spécialement en disant je vais quand même pas regarder la finale tout seul devant ma télévision. Donc on est allé ensemble à la maison de quartier avec les enfants et on a eu le plaisir de voir monsieur le sous-préfet qui lui avec ses enfants venait voir le match là aussi. Donc ça c'est, je trouve que c'était un moment intéressant. Autrement, je veux rendre un automatique, c'est dans les années, fin des années 70, début des années 80, quand l'équipe de l'ALM, parce que j'étais à l'ALM, est montée de 5 divisions en 7 ans avec André Courbeau, un entraîneur de grande qualité, très connu, mais qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui vraiment a marqué tout le monde par son travail éducatif et qui a réussi à faire monter avec des joueurs locaux le club en 3e division, l'équivalent du national aujourd'hui. Donc là, ça, c'est des souvenirs vraiment très importants, notamment un match de Coupe de France où il avait neigé la veille, il y avait 10 cm de neige et tous à une quinzaine. on a déneigé le samedi matin pour que le
c'était
match ait lieu.
C'était les joueurs qui...
Et André Corbeau, je lui dis, mais il n'avait pas de chaussettes. Je lui dis, mais vous n'avez pas de chaussettes, coach? Il m'a dit, non, ça fait 30 ans que je ne mets plus de chaussettes. Donc... et ce jour-là, d'ailleurs, on a vu, c'est le record, 2700 spectateurs, dont 300 sur la passerelle, vous voyez.
Très bien. Allez, une dernière pour vous embêter, et après je vous libère, messieurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux pour l'avenir de l'EFC 27? Voilà, quels sont, on parle plus forcément de, pas forcément, on peut aussi en reparler, mais d'objectifs, mais voilà, un peu vos aspirations pour ce club. Qu'est-ce que vous lui souhaitez?
Comme le disait Gilles, les victoires, on a beau dire que les victoires, c'est quand même important quand on pratique un sport. Donc on est content quand on monte, quand on termine une saison par une montée. Ce qu'on espère, c'est effectivement pouvoir monter notre club au niveau national. Mais ce qu'on espère surtout, c'est de continuer sur Évreux, de faire ce travail éducatif et de faire vivre ensemble les communautés, une bonne intelligence et un bon respect des règles. Tant qu'on fera ça, je pense qu'on aura fait l'essentiel.
Très bien. Gilles, vous vouliez rajouter quelque chose? Pas forcément.
Voilà, sur la même touche que Jean, de continuer justement ce travail-là et de l'améliorer, de l'accentuer encore, parce qu'on peut toujours mieux faire. Donc il faut qu'on continue sur cet esprit-là à améliorer l'ambiance générale et du club et de ce qu'il peut y avoir autour.
Très bien. Eh ben, je vous remercie, Gilles Bienfait, Jean Niki, donc de l'AFC 27, d'être passé par nos micros. Au plaisir de vous recroiser.
Et merci
puis,
à vous.
Et puis, longue vie à votre club. On rappelle que le prochain match, en tout cas pour l'équipe première, ce sera le dimanche 8 février. Et si jamais vous êtes aussi passionné de la LM Basket, puisqu'on en parle régulièrement dans cette émission, la LM Basket jouera demain sur le parquet d'hier Toulon et sera à Évreux, à domicile, contre Aix-Maurienne, vendredi. Jean?
Oui, 8 février, on reprend le championnat à Bois-Guillaume pour la première, mais très rapidement, on va rencontrer le FCR, qui est en division d'honneur comme nous. On est à la lutte cette année avec le FCR et avec Passy, parce que qui n'a pas dit son dernier mot non plus. Et donc, on va bientôt avoir un match Évreux-FCR, si le public hébreuissien...
Qui sera décisif. Ouais.
Qui risque d'être très important, en tout cas. Et donc, si j'invite les hébreuissiens à venir soutenir leur ville et leur club.
Merci. Merci à vous, messieurs. Allez, bonne fin de journée à l'écoute des programmes de Principe Actif. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta mère en short.